Le planning familial en lutte, seconde partie. Les problèmes que traverse actuellement le planning familial, tant au niveau local qu'au niveau national, traduisent-ils une régression de la liberté sexuelle en France ou d'un retour à la diabolisation des questions liées à la contraception ? À Marseille, la permanence ne peut plus accueillir son public, faute de local. Au niveau national, l'État ne montre pas de signes forts de son engagement. Alors, rencontre avec Chloé, Muriel ou Lisa, elles travaillent toutes au planning familial, confidence sur ce qui les anime et engagement du planning familial.
Le 27 octobre s'est ouvert à Paris, ici, rue Rochechouart, un centre d'information pour le planning familial. Ce que signifient ces mots sur une plaque, cette inauguration qui ressemble de loin à n'importe quel cocktail, c'est que désormais, ici, on pourra venir s'informer librement de tout ce qui concerne la vie du couple. Les problèmes sexuels tels qu'ils se posent aujourd'hui, et parmi eux, celui de la régularisation des naissances.
Alors, Chloé, donc je travaille au planning familial. Je suis animatrice et puis sinon je reçois aussi des femmes en permanence, des femmes ou des gens qui viennent à la permanence.
Animatrice, vous pouvez expliquer en quelques mots en quoi consiste ?
Il y a aussi toute une partie du travail qui concerne les animations dans les collèges, les lycées, dans les centres sociaux, etc. Tout ce qui est prévention en fait. Et puis il y a une partie entretien par ailleurs qui se tenait donc jusqu'à présent dans les locaux du planning.
Le travail ménager, il est gratuit. Et une femme qui travaille, oui, il est gratuit, il n'est pas payé. Alors quand on parle de la liberté des femmes de rester au foyer ou d'aller travailler, c'est une belle liberté en effet. C'est pas une liberté du tout, vous avez la liberté de dépendre de votre mari, vous n'êtes pas payé. Hein ?
Je m'appelle Muriel Sopo, donc je travaille au planning depuis une dizaine d'années environ. Donc j'ai été formée par le planning pendant 3 ans. C'est une formation à l'écoute, et puis bien sûr avec toutes les infos qu'on peut donner à notre public. En fait, on a ce titre de conseillère, mais on ne donne jamais de conseils. C'est-à-dire que si on reçoit une personne, on ne va pas lui dire « si j'étais à votre place, je ferais ça, ça et ça ». Non, ça jamais. On va proposer diverses solutions, lui expliquer toutes les propositions qu'elle peut avoir, et puis après c'est la personne elle-même qui va trouver ses propres solutions.
Donc je suis Lisa Tichanet, je suis la directrice du planning familial pour les Bouches-du-Rhône.
Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite, en fait. Ma maman militait au MLF quand j'étais toute petite. Donc c'est vrai que je pense que c'est une cause que j'ai intégrée de façon un peu naturelle. Après, oui, c'est un vrai engagement aujourd'hui de travailler au planning familial parce qu'on travaille dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Comme on est une association loi 1901, ça veut dire qu'on doit trouver chaque année le budget pour continuer à fonctionner. Donc ici, on a pas loin d'1 million d'euros de budget chaque année. Et ça veut dire que tous les ans, il faut qu'on refasse toutes les demandes de subventions nécessaires pour avoir le budget nécessaire pour fonctionner. C'est vrai que ça se sait peu. On a toujours l'impression que le planning familial, c'est une institution, que le planning familial, ça fonctionne tout seul, que évidemment, ça doit être financé par l'État. Ben non, chaque année, il faut qu'on nous reconfirme nos financements et peut-être qu'on ne les aura pas. Et des missions comme celle-là, nos missions de base, que sont nos permanences, eh ben, elles sont déficitaires. Et ça, c'est une réalité depuis des années.
Elle l'avait bien dit, les femmes, elles voulaient descendre dans la rue encore une fois. Pour se réjouir de la dernière mesure annoncée par le gouvernement, le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale avant la fin de l'année, mais aussi pour demeurer vigilante.
Ce métier est né d'un engagement ?
Comment vous dire ça, d'un engagement ? Disons que l'idéologie du planning...
J'imagine que vous adhérez.
J'adhère complètement. Après, c'était pas mon objectif premier. Moi, j'ai toujours été dans le social. J'étais dans l'animation socioculturelle. Et je me suis orientée pour le planning, peut-être pour être plus auprès des femmes et auprès des couples aussi, parce que moi, j'étais plus avec les jeunes. Mais l'avantage du planning, c'est qu'on a tout public confondu et que c'est très diversifié. Nos actions, on va aussi bien en maternelle, en primaire, en collège, au lycée, à la fac, dans les centres sociaux. On peut même aller en prison, on peut aller dans les instituts pour personnes ayant des handicaps. Bon, c'est très très diversifié, donc on a toutes sortes de publics et de tout âge.
Bah moi, le fait d'avoir, au tout départ, d'avoir postulé pour travailler au planning, c'était en lien direct avec mon implication dans les mouvements féministes depuis une dizaine d'années. Donc du coup, voilà, comme il faut bosser, pour moi, c'est vrai que c'était l'occasion aussi d'essayer de joindre un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la lutte féministe et puis ce qui est de l'ordre du boulot salarié, quoi.
Là-dessus, vous vous y retrouvez correctement ?
Ah bah oui, déjà parce que, de manière très immédiate, moi je trouve qu'il y a vraiment un sens immédiat justement à tenir des permanences et à accueillir sur les questions de contraception et d'avortement en particulier. Et puis plus largement aussi sur tout ce qui concerne la sexualité, qui est quand même un des champs où se condense une bonne partie des rapports sociaux hommes-femmes, quoi. Enfin, c'est assez caractéristique des rapports hommes-femmes, cette question de la sexualité. Donc ouais, à ce titre-là. Ouais.
À côté de moi, j'ai le premier de nos invités, le docteur d'Alsace, qui est président du mouvement pour le planning familial. Et je voudrais tout de suite, docteur, vous demander si vous pensez que nous avons raison en présentant de cette manière dramatique le problème de la sexualité des Français. Est-ce que c'est le problème de l'insuffisance de l'éducation sexuelle un problème dramatique ?
Oui, je pense comme vous que c'est un problème absolument dramatique que cette absence d'éducation sexuelle.
Quand, au départ, nous, on venait faire de la prévention, information sur la sexualité. Et aujourd'hui, on parle d'abord des relations, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de problèmes relationnels, de violence, de comment aborder l'autre, comment l'accepter, comment... Donc, beaucoup de conflits au sein des collèges, surtout, plus qu'en lycée. Ça, c'est flagrant. Donc, du coup, nos interventions sexualité, je dirais, passent en second plan. Et nous, on s'adapte donc véritablement au public. Même si la demande au départ des infirmières scolaires, c'est l'information à la contraception, à l'avortement, etc. C'est très très rare quand on fait passer ce message parce qu'on a déjà plein de choses à voir avant.
Ça fait combien de temps que vous travaillez au planning ?
Moi, ça va faire un an. Donc c'est récent.
Vous vous attendiez à quoi et qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Je crois qu'au niveau du contenu du travail, en ce qui concerne l'accueil du public, etc., je m'attendais plutôt à ça, en fait. Bon, après, c'est aussi de par le fait que j'étais dans des groupes féministes avant, même si je ne bossais pas, du coup, les plannings familiaux, j'en connaissais plusieurs, donc... Ouais.
Merci beaucoup.
De rien. Merci.
Jeanne Cressange, romancière et essayiste, auteur ou auteuse ? Auteur. Bon, auteur, entre autres.
Écrivaine.
Ah bon, féminisez l'un et vous... Alors, écrivaine, donc romancière, essayiste, mais auteur de 3 essais sur les femmes. Et voici votre 7e roman, paru aux éditions Flammarion, sous le titre « La mariée de Saint-Médard ».
Au bout de 4 ans, et puis vu votre engagement depuis toute petite, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de la condition de la femme aujourd'hui ? Qu'est-ce que dit le planning ? C'est de pire en pire ? Ça évolue ?
Mais le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on est dans une précarisation massive, en général. Et le problème, c'est que la précarité, elle a toujours touché les femmes en premier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas qu'il y a un problème spécifique au niveau des femmes, c'est juste que le fait que tout se fragilise au niveau économique... ça retombe immédiatement sur les femmes qui sont généralement les plus fragilisées de ce côté-là. Donc ça, on le voit tous les jours dans nos permanences. C'est-à-dire que dans nos permanences, on a des sortes de petites fiches d'entretien dans lesquelles on note pour nos statistiques quelles sont les thématiques abordées par les personnes qui viennent nous voir. Donc nous, nos thématiques principales, c'est ce qu'on appelle la maîtrise de la fécondité, donc la contraception, l'avortement, tout ce qui peut être lié à la vie de couple, à la pilule le lendemain, etc. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des thématiques secondaires, c'est-à-dire la personne n'est pas venue exprès pour ça, mais finalement c'est ça qu'elle a dit dans son entretien. Et dans les thématiques secondaires, la thématique précarité explose depuis 2 ans. C'est-à-dire que les personnes qui viennent nous voir, elles viennent toujours pour le même problème principal, mais dans ce problème principal, il y a le fait que j'ai pas d'argent pour la payer, ma contraception, et que la contraception, il y en a peu de moyens de contraception remboursés. Et si j'ai pas les moyens, qu'est-ce que je fais ? Ou j'ai une grossesse, mais je peux pas la garder parce que je peux pas l'assumer, moi, cet enfant, ou parce que je vais perdre mon travail si je la garde. Et tout ça, c'est des thématiques qui sont de plus en plus importantes dans nos permanences.
Féminisme, moi, je sais pas ce qu'on entend derrière féminisme.
Vous entendez quoi, justement ?
Féminisme, c'est pas les femmes contre les hommes, ça, pas pour moi en tout cas. Je pense que l'idéologie du planning aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Non, moi, pourquoi j'ai été dans une association préventive ? C'est parce que pour moi, la prévention, en fait, c'est apporter des informations plus au public le plus large possible, qu'on devrait avoir tous, qu'on n'a pas ni à l'école, ni en famille, ni. Enfin voilà, c'est. C'est pas assez diffusé, toutes les informations de prévention. Et du coup, pour moi, c'est ça la prévention. C'est pas je fais de la prévention pour que les gens se protègent, etc. Non, c'est pour qu'ils aient les informations et qu'ils puissent donc choisir eux-mêmes ce qui est bien pour eux, dans leur vie, pour leur corps. Voilà. Après, une fois qu'on a les informations, on peut faire des choix. Mais sans information, du coup, on prend des risques parce qu'on ne les connaît même pas, quoi. Voilà, en gros, c'est ça pour moi la prévention.
C'était la seconde et dernière partie de ces émissions consacrées au planning familial de Marseille. Vous avez entendu Chloé, Muriel Sopo et Elisa Tichanet. Vous pouvez toujours, bien sûr, aller signer la pétition sur planning-familial.org ainsi que sur le site des Bouches-du-Rhône, leplanning13.org. Les extraits d'archives que vous avez entendus sont issus de ina.fr. À bientôt.